Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomad Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimandjaro, la traversée de Bali en scooter, ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente? Alors contactez l'équipe de Nomad Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomad Aventure. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnérac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Je vous dis belle famille, comment réagissez-vous? Vous vous raidissez et vous sortez les griffes, ou au contraire, vous souriez et un souvenir agréable vous vient à l'esprit? La belle famille est-elle un sujet de conflit dans votre couple? Un sujet parfois délicat à aborder, ou dont vous parlez librement, sans tension? Pour Constance, que l'on a reçue à notre micro, le sujet belle famille est devenu difficile à aborder sereinement. En effet, elle nous le racontera. Mais depuis qu'elle et Adrien, son mari, sont venus vivre avec leurs trois enfants à quelques kilomètres de la famille d'Adrien, le climat s'est quelque peu tendu. Constance supporte de moins en moins les week-ends passés dans la grande maison familiale et les réflexions qu'elle entend sur ses opinions politiques, l'éducation de leurs enfants ou sa façon de dépenser. Malgré cela, Constance n'ose ni répondre ni poser des limites claires sur ce qu'elle est capable d'accepter par respect de sa belle-famille et ce qu'elle ne souhaite plus entendre. Et le premier à pâtir de cette situation, c'est évidemment son couple. Alors, que mettre en place pour préserver son couple des tensions que peuvent générer les relations avec nos familles respectives? C'est la question que nous abordons dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise.
Bonjour Soisic.
Enchantée de te retrouver, merci du temps que tu vas passer avec nous aujourd'hui encore.
Mais c'est toujours de bons moments.
Et puis bonjour Constance, bienvenue au micro d'Au cœur du couple.
Bonjour Soisic, bonjour Marie-Lise.
On est ravis de t'accueillir, tu nous as laissé un petit message il y a quelques jours, j'avais lancé une boîte à questions pour dire qu'il y avait un créneau qui était libre pour échanger avec nous et tu es venue tout simplement avec ta question et puis tu as osé venir nous parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas et c'est vraiment dommage parce qu'on passe un excellent moment qui porte souvent des fruits. Donc merci à toi Constance de ta confiance, on est vraiment très contents de t'accueillir ici, d'autant que tu viens avec un sujet qui va concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Je ne dis pas tout de suite lequel, je vais te laisser nous en parler, mais je pense que ça va faire écho. Alors, est-ce que tu veux bien, Constance, commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui, je vis à Toulouse depuis un an et demi. J'ai 3 enfants et je suis mariée depuis 7 ans avec Adrien. Voilà, on s'est rencontrés il y a 8 ans dans une mission humanitaire et tout a été très vite parce qu'il m'a demandé ma main au bout de 3 mois et qu'au bout de 6 mois on était mariés et que j'étais déjà enceinte de mon premier enfant. Et donc voilà, et ensuite nous avons eu nos 2 autres enfants dans les 4-5 années qui ont suivi. Donc tout a été assez rapide, sachant que j'ai rencontré mon mari hyper tard, à 37 ans, et que je n'y croyais plus. Du coup, ça a été un véritable chamboulement dans ma vie, un véritable tsunami.
Ce qui peut peut-être expliquer que ça a été assez vite, c'est que tous les deux, vous étiez peut-être prêts en fait, à vivre cette histoire.
Ouais, tout à fait. Moi, j'étais vraiment prête, j'étais très en forme quand je l'ai rencontré.
Tout va bien dans le meilleur des mondes, a priori, mais si tu viens vers nous, c'est qu'il y a un petit détail, une petite problématique qui te préoccupe et sur laquelle tu souhaitais échanger avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, effectivement, tout va très bien, mais il y a 1 an et demi, je suis allée m'installer dans la ville de ma belle-famille, malgré tous les contre-avis, donc de mes amis et de ma propre famille. Donc voilà, et donc là, c'est un peu la crise des 7 ans de mariage à cause de cette belle famille qui est très gentille, très serviable, qui garde mes enfants dès que possible. Mais malgré tout ça, je me sens assez mal à l'aise avec eux, en fait. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Toutes les familles de mes amis m'ont toujours appréciée. Mais je pense que c'est peut-être à cause d'une différence de milieu, de niveau social, d'idées politiques. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis pas vraiment acceptée depuis le début. De par mon milieu, de par le journal dans lequel je travaille qui est marqué à droite, et eux sont plutôt à gauche, voilà, et puis les amis catholiques que je côtoie, ça plaît pas beaucoup. Donc je pense que je suis pas la belle-fille que ma belle-mère aurait souhaité, car peut-être un peu trop sophistiquée, trop aristo, et en plus parisienne, donc ça fait beaucoup. Et on est plutôt ambiance chez eux amish. Voilà, donc quand je donne du coca, des bonbons à mes enfants, ou je les mets devant des dessins animés, c'est la cata, ça se tend, quoi.
C'est quelque chose que tu as ressenti dès le départ ou qui s'est mis en place progressivement?
Je pense à partir du moment où il a commencé à avoir les enfants et puis quand ils ont commencé à être un petit à avoir 3-4 ans, quoi, quand l'éducation se fait, voire 2 ans, se fait à ce moment-là, en fait. Oui, non, si, je l'ai senti même à la naissance de mon 2e enfant. J'avais été passer une semaine toute seule avec mes 2 premiers enfants chez ma belle-mère et j'ai pas du tout apprécié, en fait, que ma belle-mère et ma belle-sœur fassent l'éducation de mes enfants à ma place. Ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était humiliant, en fait, de mon aîné, surtout parce que le 2e venait de naître. J'étais à 2 mètres de lui et elle disait à mon fils, dis bonjour, dis pardon, dis s'il te plaît. Je trouvais ça extrêmement redondant. Puis j'étais à côté, donc à partir du moment où j'étais à côté, c'était à moi de décider si devait dire bonjour, merci, pardon, s'il te plaît. Ça a été assez rapidement. Même mon mari leur en a parlé, mais ça a rien changé, en fait.
Et tu parles de ta belle-mère, mais t'as parlé aussi de ta belle-sœur. Donc il voilà. Y a pas que ta belle-mère.
Non. Elles sont fusionnelles. Il y a pas trop de place pour une belle-sœur comme moi ou belle-fille. Et en fait, elles sont complètement raccord. Donc voilà. Mais après, si vraiment il y avait un problème majeur dans ma belle-famille, ce serait plutôt ma belle-mère à 90%. Je m'entends bien avec ma belle-sœur, même si on n'est pas pareil, et même si elle m'a plusieurs fois mal parlé. Il y a une semaine du mariage, je me souviendrai toujours, elle m'avait hurlé dessus parce qu'elle trouvait que j'étais pas assez organisée. J'avais rien dit parce que je voulais que le mariage se passe bien, mais je m'étais dit, quel culot, dis donc. Mais voilà, non, s'il y avait un véritable problème, ce serait plutôt avec ma belle-mère, mais avec ma belle-famille en général aussi. Je veux dire, quand on est dans la maison familiale, je sens que si je fais pas les activités de coutume, c'est-à-dire rester à rien faire ou au bord de la piscine ou faire la balade d'à côté, eh bien, je suis à contre-courant et on me regarde avec des gros yeux. En fait, je me sens pas du tout libre, jamais. J'aime bien faire du lèche-vitrine. Un jour, j'ai vu ma belle-mère parler à un de mes enfants. Elle savait que j'étais là. Hein. Elle lui disait « Maman est une consommatrice ». J'ai trouvé ça hyper méchant, en fait. Je me suis dit, mais en fait, je gagne ma vie, c'est mon argent. Moi, je suis contente de dépenser, faire des cadeaux. Voilà, pour moi, c'est du plaisir, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'élever mes enfants un peu dans la gaieté, la joie, et pas forcément dans l'austérité. Voilà, moi, je préfère l'utile à l'agréable, qu'elle est à la recherche de la moindre économie. J'ai pas été élevée comme ça, en fait. Et j'aime profondément les belles choses et pas les vieux machins qu'on me refourgue. Voilà.
Dans cet exemple que tu nous donnes, par exemple, là, puisque tu as entendu ce que t'a dit ta belle-mère, tu as réagi comment ?
Mais c'est ça mon problème, c'est que je dis rien. J'ose pas, je suis trop bien élevée, je n'ose pas dire des choses, quoi. Je suis scotchée devant ça et je me dis, bon, bah, je laisse faire, en fait, quoi, parce que je veux pas le conflit. Et en fait, le problème, c'est que de rien dire, c'est terrible, parce que là, aujourd'hui, j'explose, quoi.
Tu exploses auprès de qui ?
Bah, de mon mari, c'est à Qatar. Non, et pour terminer, en fait, ce qui me fait vraiment de la peine, en fait, c'est que ma belle-famille, c'est la tolérance avec tout le monde, mais pas avec les cathos tradis de droite. Voilà. Et comme je viens de là, je me sens mais vraiment mise de côté, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, une question de milieu. Et enfin, ouais, ma belle-mère donne tout le temps son avis. Elle m'a demandé de prendre sa fille comme marraine. J'ai trouvé que c'était vraiment mais tellement déplacé, quoi. Et pareil, sur ce que je mange, si je prends du sucre édulcorant avec une tarte aux pommes, elle me dit que je fais n'importe quoi. Mais je me sens scrutée, surveillée, quoi. Je ressens beaucoup de vexation aussi quand elle me dit que je parle trop. En fait, je me sens jugée en permanence, quoi. Elle m'a fait un compliment en 7 ans. C'est de me dire que je lui avais fait des beaux petits-enfants. Point. Moi, ce que je me dis, c'est que le couple est fragile. Voilà. Et que les familles doivent rester à leur place, même avec un choix de belle-fille qui leur déplaît. Hein, voilà. Et on n'est pas dans le « tu quitteras ton père et ta mère et tu ne feras qu'une seule chair hein. ». Ma belle-mère m'a pas donné son fils. Et ce qui me fait un peu de la peine, c'est que mon mari préfère passer ses week-ends à la maison familiale qu'avec ses 3 enfants et sa femme. Voilà, bon, en fait, ça fout le bazar dans le couple. Et
T'as l'impression que le cordon n'est pas coupé entre
pas du tout,
ton mari et ta belle-famille.
J'ai l'impression qu'on est revenu à Toulouse pour ça, en fait, parce que le cordon n'était pas coupé. Au départ, c'était tu verras, Toulouse c'est cool. Mais non, en fait, c'est pas ça. Il y a la maison familiale à côté de Toulouse dans laquelle il faut aller passer tous ses week-ends. Et puis surtout, il y a la famille avec qui on fait famille, en fait. Ma famille, c'est pas mon mari et mes 3 enfants. Hein.
Et toi, tu te positionnes comment ? Donc, par rapport à ta belle-mère, jamais tu as eu une conversation avec elle, jamais tu as pu lui exprimer ce malaise que tu ressentais, la façon dont elle te parlait, comment ça pouvait t'atteindre ?
Non, une fois, avec mon beau-père, il faisait l'éducation de mon deuxième fils pour le pot, pour la propreté. Donc, je trouvais ça pareil, un peu déplacé. En fait, c'était plutôt à nous, quoi. Donc, je lui ai fait une petite remarque et elle m'a répondu « Enfin, Adrien était propre à 2 ans ». Donc elle veut toujours le dernier mot. Donc j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Hein. Je vais jamais y arriver. Je sais pas quoi faire.
Tu n'as pas réussi à avoir une conversation vraiment, tu vois, de fond avec elle, pas sur un sujet précis sur lequel elle serait intervenue, mais sur toi, la façon dont tu vis les choses, dont tu les ressens. Ça non. Tu ne t'en sens pas capable.
Non, pas trop. Non, c'est trop compliqué.
Donc en fait, celui qui sait tout, c'est ton mari. Pour le coup, lui, il est bien conscient de ce qui se passe.
Tout à fait, mais ça le touche beaucoup, ça lui fait beaucoup de peine. Parce qu'il adore sa famille. Donc, il m'a dit, on va aller voir une conseillère conjugale. Donc, voilà. Donc, nous voyons une conseillère conjugale pour régler le problème de la belle famille. Bon, moi, je suis pas complètement convaincue.
Ton mari, Adrien, il accepte ce que tu dis. Il le constate. Il dit, oui, effectivement, Constance, t'as raison. Je me mets à ta place. Je vois bien.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il prend ma défense aussi si sa mère m'attaque. Mais lui, son excuse, c'est de dire « ma mère, elle est cash ». Elle est comme ça, elle dit tout ce qu'elle pense. C'est pas méchant. Mais je sais pas, moi, je trouve ça assez méchant, en fait. Mais...
Donc, c'est à toi, en somme, de t'adapter à ta belle-famille, à accepter, à respecter, à ne rien dire pour que ça se passe bien. C'est ce qu'il te demande.
Il me dit pas de rien dire. Il serait pour que je parle à sa mère, quand même. Mais vraiment très gentiment, en disant « voilà, notre relation, elle n'est pas bonne, il faut la changer ». Ou alors, effectivement, quand elle donne son avis, de peut-être intervenir à ce moment-là, mais une fois de plus, de façon hyper gentille. Dire, je sais pas, par exemple, vous avez invité un tel, je le déteste, comment vous pouvez inviter ce type ? Lui dire, bon, voilà, on invite qui on veut, on est chez nous, on ne veut pas de commentaires, on ne fait pas de commentaires sur les gens que vous invitez, vous. C'est ça, mais il faut que je sais pas si je vais y arriver, mais... Je sais pas si je vais y arriver, franchement. Moi, franchement, ma solution, c'est un départ à l'étranger ou dans une autre ville de province.
C'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu vois les choses ? Tu vois, comment est-ce que, selon toi, ça peut s'améliorer ?
Moi, mon échappatoire, c'est une mission à l'étranger ou une petite ville de province ailleurs, quoi, loin. J'aurais adoré revenir à Paris, mais mon mari veut pas et je comprends.
Donc, tu nous l'as dit, c'est un sujet de tension entre vous deux.
Ah ouais. La crise des 7 ans de mariage, on peut la mettre dessus. On peut la mettre sur cette cause sans problème.
Et lui, ce qu'il a proposé pour que vous puissiez avancer là-dessus, c'est donc que vous fassiez aider.
Moi, je voulais qu'on se fasse aider par un prêtre, par mon père spirituel, qui disait il faut surtout prendre les distances avec la belle famille. Je trouvais ça assez beau. Et voilà, mon mari trouve que ça fait trop, en plus de la conseillère conjugale. Donc, on va continuer. Voilà. Heureusement, on a Save Your Love Date, grâce à qui on passe de très bons moments.
De toute façon, ce n'est pas un épisode sponsorisé, hein. Je n'ai rien demandé.
Non, malheureusement, je ne sais pas ce qui va pouvoir aider. Moi, il faut que Mais j'ai l'impression que j'arrive plus à dire les choses. Alors, généralement, j'arrive plus à les dire à l'écrit. J'avais rédigé une lettre pour ma belle-mère, mais j'arrive pas à lui envoyer. Puis après, je me dis, bon, les écrits, ça reste. Je sais pas, voilà. Donc non, je me dis le mieux, ce serait vraiment de dire gentiment les choses et puis d'espérer que je vais y arriver, voilà.
Alors écoute, on va demander à Marie-Lise de te donner les clés pour pouvoir avoir ce dialogue, cette conversation avec ta belle-mère. Je pense que c'est une conversation qu'on aimerait toutes pouvoir avoir de façon apaisée avec nos belles-mères. Donc Marie-Lise, tu as toutes nos oreilles tournées vers toi.
Merci Constance pour ton retour, parce que c'est vrai que, comme elle a dit Sozic, c'est une question qui revient très régulièrement dans les questions qu'on a sur le podcast, les relations avec la belle famille. Et je comprends complètement là l'idée, en plus avec les générations, de « j'ose pas dire les choses ». Moi, ce que je me dis, c'est qu'en plus, si ton mari il te soutient, c'est peut-être te questionner si c'est difficile et que tu te vois pas parler avec elle, qu'est-ce qui permettrait que ce serait plus facile ? Qu'est-ce qui rendrait la discussion plus facile ? Est-ce que, ne serait-ce que te demander, dans quel lieu ça serait plus facile pour toi ? Peut-être dans un trajet en voiture où vous êtes bloqués toutes les deux ? Ou est-ce que c'est en présence de ton mari ? Est-ce que c'est dans un endroit où tu sais qu'il n'y aura pas les enfants qui vont traîner par là ? Mais déjà, te questionner sur quel contexte tu peux créer pour que l'échange soit plus facile. Et c'est aussi, en fait, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour parler. C'est comme on le dit souvent avec Sozic, un pardon, ça peut être dit une semaine, des mois après l'acte qui a été fait. Et ben, c'est pareil, en fait, s'il y a quelque chose qui t'a touché, là, je pense à la remarque par rapport à qui vous invitez. Enfin, c'est vrai que sur le coup, je sais pas moi, à ta place, j'aurais été super énervée et remontée. J'aurais été incapable de dire quelque chose, que j'aurais juste eu envie de lui tirer les cheveux. Par rapport à la remarque sur les personnes que tu peux inviter ou d'autres, en fait, c'est je me dis, tu peux aussi lui redire les choses a posteriori. En fait, c'est pas grave si tu lui dis pas directement, parce que ton mari, il est gentil hein, de dire, faut que tu lui dises gentiment à maman ce qui va pas. Mais je pense que c'est quand même vachement difficile à faire. Déjà, c'est pas facile de lui dire stop. Alors en plus, le dire de manière posée et délicate, c'est encore moins facile. Donc je me dis, c'est peut-être aussi pouvoir te dire, là, cette semaine, il y a ça qui m'a blessée. Et c'est de pouvoir lui dire même 3 jours après, dire au fait, j'en sais pas comment elle s'appelle, Gertrude, n'importe quoi. Mais il y a ça que tu m'as dit, franchement, je l'ai mal pris, quoi. Sur le coup, ça a été compliqué pour moi, j'y ai repensé après. Mais pouvoir le dire a posteriori, quand l'émotion et l'intensité n'est plus à son summum, en fait. Parce que comme ça, c'est plus ton corps et la sphère émotionnelle qui va parler, mais c'est aussi intellectuellement, tu vas pouvoir expliquer qu'est-ce qui t'a blessé. Donc pouvoir peut-être essayer de dire comme ça les choses a posteriori. Si c'est compliqué de dire les choses, moi je pense qu'il faut en fait... Parce qu'en fait souvent, ce que je vois avec la belle famille, c'est qu'on veut leur expliquer les choses, mais pour qu'ils changent. Et souvent, on se le dit, eux ils n'ont pas envie de changer. Donc il y a peu de raisons, il y a peu de chances qu'ils changent, quoi. Bon, déjà, s'ils voient qu'ils t'ont blessé, peut-être que ça les amènera à se freiner. Mais je pense pas qu'ils vont changer de comportement avec tes enfants ou dans ce qu'ils vont faire, parce que eux, ils ont aucune motivation à vouloir changer en soi de base. Donc, le mouvement est plutôt faible. Alors moi, ce que j'invite à faire, c'est en fait, c'est d'amener des changements de comportement de toi et de ton couple, en fait. C'est que vous amenez à vivre des nouvelles expériences, à avoir un comportement différent. Et c'est un peu comme un algorithme. En fait, vous avez plus les mêmes comportements, donc forcément, ils vont se questionner et ça va amener un changement dans leur comportement. Donc ça amène une réelle discussion qui peut avoir lieu avec ton conjoint. Je trouve que ça, c'est hyper facile, par exemple, avec cette idée que tu dis que tous les week-end, on est chez eux et on a pour toi la famille, dans le sens comment tu le vis aujourd'hui, c'est la famille élargie avec tes parents. Ça, c'est pas sain. En tout cas, dans notre mode de vie ici en France actuellement, c'est pas comme ça que ça se construit. Encore, il y aurait une tradition culturelle ou quelque chose, mais c'est de pouvoir questionner sur ça, de dire c'est quoi pour toi notre famille? Pour moi, c'est toi et nos trois enfants, et c'est ça notre noyau. Et en acte concret qu'on pourrait placer, c'est « écoute, moi ce que je veux, c'est que tous les week-ends, non, on n'y aille pas. On peut programmer peut-être à l'avance, une fois par mois dans le week-end on y va, ou deux fois par mois, ou j'en sais rien, ou voir qu'est-ce qui vous convient à tous les deux, mais pouvoir le programmer comme une visite, pas comme quelque chose d'automatique. Et sans forcément en parler à ta belle-mère, en fait. C'est juste que vous allez enclencher des changements comportementaux et de façon de faire, qui vont amener chez elle forcément une rétroaction en fait. Elle va forcément changer de comportement. Peut-être que c'est elle qui va vous solliciter, va dire qu'est-ce qui fait que vous venez moins? Et en fait, on a décidé de se recentrer sur notre couple. On est content de vivre à côté de vous parce que c'est hyper confortable pour les enfants, mais on se rend compte qu'on se perd aussi dans votre famille et qu'on se voit moins. Peut-être que là, ça créera une discussion parce que elle va observer votre changement de comportement et elle va peut-être être amenée va vouloir en tout cas se poser davantage de questions. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, moi, que vous allez voir une conseillère, parce qu'effectivement, ça vient vraiment questionner ce qui se passe là, c'est comment vous imaginez votre couple. Parce que ça, tu l'as très bien dit, la priorité entre son couple et sa belle-famille, la priorité, elle revient au couple. Mais est-ce que c'est clair pour ton mari, ça? Et comment, en fait, si c'est clair pour lui, qu'il va dire spontanément, oui, pour moi, ma priorité, c'est toi, c'est nos enfants, concrètement, dans nos actes, comment on peut le manifester, ça? Si c'est clair et que c'est OK pour toi que c'est ta priorité, moi, en tout cas, dans les faits, je ne le ressens pas comme ça. Donc peut-être que c'est ça que vous pouvez questionner avec votre conseillère conjugale. Et c'est d'établir des limites claires entre votre couple et la belle-famille. Et ça, tu peux déjà le lister. Sur, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple, ces week-ends que vous passez tout le temps, peut-être qu'il y a d'autres limites. Et c'est là où toi, tu peux déjà, dans un premier temps, te questionner, t'être reposé. Enfin, il y a toujours, toutes les belles-familles font des choses qu'on n'aime pas. Soit trop sermonner nos enfants, soit pas assez, soit donner trop à manger de ceci, ou inversement, les coucher trop tôt, trop tard. Enfin, on n'est jamais d'accord avec un truc, mais qu'est-ce qui peut être de l'ordre de... c'est les grands-parents, je sais qu'ils feront pas comme moi, mais ça, ok, je l'accepte. Et ça, c'est vraiment pas tolérable, en fait. Qu'est-ce qui est non négociable, en fait? C'est un peu ça. Toi, te questionner déjà sur ça et pouvoir, dans le cadre avec une tierce personne, dire, moi, je pense que c'est important qu'on puisse mettre les limites. Et ça, c'est vraiment pas négociable pour moi. Et j'ai besoin qu'on fasse équipe ensemble pour ces choses-là, pouvoir le manifester, le dire, ou ne plus leur laisser dans tel contexte les enfants, ou ne plus faire ça avec eux. Et ça, effectivement, ça me plaît pas, mais c'est négociable, j'accepte et je tolère. Et quand elle fait ça, je ne dirai rien parce que ça fait partie de ce que je considère comme négociable. Donc ça, faut que ce soit clair entre vous pour que vous puissiez faire équipe par rapport à ça. Ce qui est important aussi, je sais pas si ça vous le faites ou non, je me dis, c'est en présence de la belle-famille, t'en as pas trop parlé, mais quelle place lui il prend? Est-ce qu'il reprend une place d'enfant chez ses parents ou est-ce qu'il prend une place d'homme qui vient avec sa femme et sa famille rendre visite chez ses parents? Et ça, ça peut être questionné, je trouve, aussi avec une conseillère conjugale et de pouvoir aussi l'inviter à observer ses comportements, si c'est le cas, s'ils sont différents, parce que c'est un retour que j'ai beaucoup dans les couples, avec l'homme qui reprend une place de petit garçon, en fait, quand il est chez ses parents, et pouvoir l'inviter à prendre cette place d'homme quand il est, d'adulte, d'époux, de père, quand il est dans sa famille. Et ça peut être aussi par des choses, peut-être que vous pouvez en parler, et puis des choses, est-ce que vous maintenez aussi la connexion? Une forme de connexion, je vous invite pas à vous embrasser follement devant les parents, mais une connexion pour montrer aussi ce lien qu'il y a entre vous devant la famille. Mais à questionner ça, je trouve, c'est important pour qu'il puisse avoir cette place d'adulte au sein de sa famille. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est que lui n'a pas mis des actes où il s'est positionné comme adulte, il reste dans cette place de petit garçon, donc elle le traite comme un petit garçon, et elle te traite comme une petite fille, en fait, aussi, par conséquent. Elle peut te dire tout ce qu'elle pense sur tes actes, parce qu'au final, par extension, tu es également une petite fille. Enfin, donc ça, je trouve ça important. Et c'est aussi, ça t'en as pas trop parlé, mais ça me questionne, moi, parce que tu dis justement que vous venez d'un milieu différent, avec des traditions et des valeurs différentes. Mais est-ce que vous êtes tombé amoureux malgré le fait que vous venez de familles différentes, quelles sont, vous, vos traditions et vos valeurs familiales? Est-ce que ça, c'est clair pour vous deux? Ça peut, je me dis, dans le cadre d'une séance avec la conseillère conjugale ou même entre vous, moi, je viens avec ça, c'est mon héritage, toi, c'est ça ton héritage, mais nous, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre? Et faut que je me dise, c'est important que vous soyez clair sur ce cercle que vous voulez défendre, parce que forcément, il y a des choses qu'il va prendre chez toi, et toi aussi, il y a des choses dans leur famille, je suppose, que tu prends aussi. et que ce soit un peu bien, que votre cadre, vous, de référence, il soit bien établi et que vous créez vos propres traditions de couple et que là, de même, vous puissiez faire équipe pour défendre auprès de sa famille, lui, d'origine. Bah oui, je sais que ça, c'est vos traditions à vous, mais nous, dans notre famille, ce sont ces traditions-là, ces valeurs-là qu'on défend. Et c'est un mix de nous deux. C'est une autre histoire qui s'invente. Mais que, en fait, plus vous allez en parler entre vous de vos valeurs, de vos traditions, plus ce sera facile de les défendre, en fait. Parce que peut-être qu'inconsciemment, forcément, c'est mis en place spontanément, mais si vous posez des mots dessus, ce sera plus facile de les défendre. Donc de bien pouvoir, en fait, l'idée là, avec la conseillère, c'est comment on refait équipe, ensemble, pour remettre clairement en avant le couple et montrer aux yeux des belles familles respectives, en tout cas, que c'est la priorité, c'est votre couple et votre famille.
Merci beaucoup, Marie-Lise. Tu dis que tu as été rapide, mais en même temps, tu as été très concise et tu as donné plein d'idées. Moi, il y en a une sur laquelle je voulais juste rebondir. C'est cette idée de définir ensemble ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, définir ce qu'on est prêt à accepter, ce sur quoi on va se dire, bon, ben là, on ne dira rien. Là, c'est le respect qui prime. C'est la sérénité dont on a besoin, la paix que l'on veut entre nous. Donc là, on ne dit rien. Et puis, ces situations où pour le coup, on se permet de répondre, on se permet de réagir, on se permet de dire que l'on n'est pas d'accord. Mais je trouve qu'effectivement, d'à deux, de mettre ce cadre, d'en parler, c'est une sécurité certainement qu'on se donne. Et puis se dire, quand je vais me retrouver dans cette situation chez ma belle-famille, je sais qu'on en aura parlé tous les deux et que lui, il va pouvoir intervenir et qu'effectivement, comme tu l'as dit, on fera bloc, en fait, on fera équipe dans cette situation et je m'en sentirai soutenue.
Et le fait d'avoir des choses qui sont qu'on tolère, ça montre, je trouve, aussi à notre conjoint la marge d'effort qu'on fait. En fait, dire bah ça veut pas dire que ça va pas nous agacer, mais on a dit bon, ça c'était négociable. Et donc tu vois, là je n'ai rien dit et tu montres aussi à l'autre les efforts et ce que t'es capable de faire et comment toi aussi tu avances, en fait. Mais c'est montrer que tout le monde aussi, enfin que c'est pas nous qui devons faire tout le boulot, quoi. C'est un travail d'équipe.
Constance, je t'ai vu beaucoup réagir quand tu m'as parlé.
Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. À vous deux. Sur la place d'Adrien, oui, effectivement, quand on est en famille, ça redevient un enfant. Sa maman lui fait des crêpes. Sa maman lui dit « resserre-toi ». Elle propose à personne d'autre de se resservir, mais « resserre-toi ». Voilà. Donc on est effectivement, et du coup, c'est très intéressant, la projection qu'elle doit faire sur moi, donc petite fille, c'est vrai, je me sens un enfant, en fait, aussi. Sur les valeurs et les traditions, j'ai l'impression qu'on est quand même très raccord avec mon mari. Le fond est là, quoi, vraiment. Il est sympa en plus parce qu'il est d'accord sur certains petits détails que j'ai envie d'appliquer, sur une façon de se tenir à table, sur une façon de parler qui n'est pas sa coutume, mais il est d'accord pour les appliquer. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Mais le fond est vraiment là. Et effectivement, on est opposés d'un point de vue politique, mais on se respecte, on se tolère. Chacun se comprend. Voilà, il y a une vraie liberté de pensée avec mon mari, et ça, c'est extraordinaire. Et j'espère qu'on va pouvoir inculquer ça à nos enfants, qui pourront choisir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de défendre. Mon mari défend plus le social. Moi, je vais peut-être défendre plus voilà, une politique qui se rapproche des convictions, de mes convictions religieuses. Bon, voilà. Donc voilà, mais je me trouve quand même très très raccord. On se dispute pas du tout là-dessus, quoi. Après, j'ai bien aimé sur le définir négociable, pas négociable. Effectivement, peut-être faire la liste sur la programmation du week-end. C'est ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire que en avance, je programme pas mal de choses pour pas qu'on aille en week-end familial. Donc déjà, je le fais pas mal.
Là, je me permets de rebondir. Je pense que plus que de programmer de ne pas y aller, c'est le décider ensemble, en fait. En fait, en faire une règle de bonne conduite entre vous et une règle de paix presque en disant, voilà, sur un mois, on se dit que ça sera une fois par mois.
Ouais, exactement.
Qu'on ira passer du temps dans cette maison. Plus que toi, d'essayer de programmer des choses pour esquiver.
De le décider ensemble. Oui. Oui, parce que c'est
pas du tout la même chose. En termes de positionnement, c'est pas du tout la même chose. Essayer de remplir pour éviter de poser.
Ouais, il tire la langue, il dit, ah, mais t'as trop programmé, là. Du coup, il y a plus d'imprévu. Mais le problème, c'est que l'imprévu, moi, je le connais. Donc, bon. Donc, non, tout à fait. Peut-être en discuter ensemble, plutôt, oui. Oui, effectivement, dire on y va qu'une fois par mois, mais c'est ce qu'on met en place. Et après, sur oui, notre noyau, je pense que c'est pas mal. Ça serait hyper bien de dire à mes beaux-parents, ouais, là, on essaye de se reconcentrer sur notre famille, notre noyau, notre couple. Ça, je trouve que c'est un bon message à faire passer. C'est très respectueux, en fait.
Et Marie-Lise, j'ai une question. Est-ce que pour toi, la distance géographique peut être une solution dans ce genre de circonstances?
Ça peut être un moyen, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un questionnement derrière, parce que, par exemple, cette posture de petit garçon qui prend auprès de sa mère, ça sera toujours le cas, même s'il est loin, donc ça doit être questionné à un moment ou à un autre. Mais peut-être que parfois, oui, ça peut être utile ou nécessaire si c'est trop envahissant et qu'on trouve pas le moyen de le faire. Mais après, c'est dans quel contexte on l'accompagne et réflexion et comment on pose des mots dessus. Mais je me dis, oui, ça peut aussi être quelque chose qu'on peut faire. Mais en fait, je trouverais ça dommage que ce soit une situation extrême si le cadre de vie, là, te plaît et que tu es heureuse dans tes conditions de vie et que, tu vois, ça serait dommage de tout quitter, quelque chose qui te convient ordinairement alors qu'il y a des choses à faire.
Mais beaucoup me disent effectivement, ne pars pas si c'est la fuite, en fait. On verra.
Bon, je pense que Constance et Adrien, vous avez une petite liste, une petite to-do que vous pouvez mettre en place entre vous. Là, vous avez, en plus du travail que vous faites avec la conseillère conjugale, je pense que vous avez de quoi travailler tous les deux. Évidemment, nous, on donne Marie-Lise, elle vous donne des pistes de réflexion, d'action, mais c'est vous qui avez les bonnes solutions pour ce que vous vivez. Ce qu'on peut te souhaiter, ça c'est sûr, c'est de réussir à avoir une conversation avec ta belle-mère, tu vois, une conversation vraiment en vérité qui viendra. Alors, peut-être pas apaiser les choses dans l'immédiat, mais qui aura un effet ensuite d'apaisement entre vous, et que ça va se ressentir dans votre couple. Marie-Lise vous l'a bien dit, c'est de vous redire où est votre priorité, et si votre priorité c'est votre couple et votre famille à vous, c'est ça qu'il faut privilégier, c'est ça qu'il faut mettre en avant et faire en sorte qu'en fait ce soit apaisé chez vous et faire au mieux après avec la belle famille. Bon, c'est sûr que c'est jamais des relations qui ne sont jamais simples, et des décisions à prendre, des choses à mettre en place qui ne sont jamais simples et qui demandent parfois, on le voit bien, que t'es pas forcément à l'aise avec l'idée d'aller avoir une conversation avec ta belle-mère, et je te comprends là-dessus. Parfois on se dit, allez, j'y vais, la lettre, tu vois, que t'as écrite, finalement tu l'as pas envoyée, mais c'est des actes effectivement courageux à marquer, mais qui souvent quand même derrière portent des fruits. Donc écoute, on te souhaite de pouvoir avoir cette conversation avec elle, et puis de pouvoir rester là où tu aimes vivre surtout, et voilà, de pas te sentir mise dehors, que ce soit pas la solution.
Merci beaucoup.
Merci à toi de ta confiance. Ça nous touche beaucoup avec Marie-Lise, on le dit pas toujours, mais voilà, que vous preniez ce temps pour venir ouvrir votre cœur à notre micro, c'est une belle marque de confiance. Donc un grand merci. Marie-Lise, merci beaucoup.
Bah, avec plaisir.
Tu as été pertinente. Et puis je crois qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Voilà, avec une nouvelle auditrice, hein, pour un nouvel épisode de Cœur de Couple. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, tous vos petits messages que vous nous envoyez. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur de Couple. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.